Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
C'est une île, quelques 35 960 km² située au large des côtes chinoises. Elle constitue l'essentiel d'un État. Non membre de l'ONU et non reconnu officiellement par la plupart des pays du monde, son nom officiel est peu usité. On peut dire effectivement République de Chine. Enfin, elle est importante par sa puissance économique et par le rôle qu'elle joue en...
Les Américains non plus. Ils en ont assez avec l'Irak. Or, les traités qu'ont les Américains avec Taïwan les obligeraient à intervenir s'il y avait vraiment une menace sérieuse du continent. D'aucun côté, on a intérêt à ce que les affaires se gâtent.
Canal Académie reçoit aujourd'hui dans l'émission Éclairage Madame Marianne Bastide Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, grande spécialiste de la Chine moderne et contemporaine. Et nous parlons de Taïwan, l'actualité de Taïwan, actualité politique et économique. Et comme prévu, Madame Bastide Bruguière, je vous propose d'écouter donc Madame Chen Yuchu, rencontrée ici même dans ses studios de Canal Académie à Paris au mois de mars 2004, alors qu'elle occupait encore le poste de ministre de la culture de Taïwan. Et je lui demandais dans un premier temps de nous retracer un petit peu l'historique de ses relations avec la France qu'elle aime tant.
Mon père est un peintre. Alors, depuis que je suis petite, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, il pratique le français parce qu'il étudie le français avec une bande magnétique. Il n'a pas bien appris le français, mais moi, je sais déjà le français. Dès que l'âge de 7 ans ou 8 ans, je me rappelle, c'est un texte assimile. Le premier leçon, c'est papa téléphone, maman tricote. Quelque chose comme ça, très amusante. Ça veut dire que dès que je suis très jeune, je connais déjà le français, la langue française. Et comme il est peintre, il admire beaucoup la peinture européenne surtout. La France.
Impressionniste.
Impressionnisme. Oui. Alors, je connais déjà toutes les peintures impressionnistes dès l'âge de 10 ans. À 16 ans, je viens à Paris pour faire mes études musicales. Donc, pendant 10 ans, à Paris, j'ai eu mon prix de piano et mon prix de musique de la chambre au conservatoire. 1950 jusqu'à 2000, nous avons l'impression que l'Europe se retraite. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui viennent en Asie. Et 50 ans passés, tout est changé. Maintenant, l'Europe a moins d'influence sur l'Asie, presque disparue. Et je trouve que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, les jeunes dans l'Asie, on connaît mieux les États-Unis que l'Europe. Donc, l'Europe, je crois, ils ont perdu leur influence en Asie, dans le domaine politique, social, études ou bien artistique aussi.
Oui, vous le dites justement, je vous cite, « La puissance économique et militaire de l'Europe a été le principal vecteur de la diffusion de sa culture. » Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Non, justement. Et par exemple, le français, l'allemand, l'espagnol, qui sont pratiqués par les jeunes, presque un poignet d'étudiants, que tout le monde parle l'anglais et même les parents des étudiants qui demandent de commencer l'éducation de l'anglais plus tôt, dès le jardin d'enfants. Donc, tout le monde parle l'anglais, mais personne ne parle français, l'allemand, l'espagnol. Et si vous demandez aux jeunes, si vous connaissez Camus, ou bien vous connaissez Picasso, ou bien est-ce que vous connaissez Matisse, des jeunes ne peuvent plus répondre que dans mon temps. Presque tout le monde peut répondre. L'étranger de Camus, tout le monde a lu, etc.
Parlez-vous, Madame le Ministre, pour autant de déclin de l'Europe, vu de l'Asie. Est-ce que vous employez le terme à dessein?
Ça veut dire, j'avais lu dans le livre de français, mais je pense que c'est la vérité. Mais dans mon exposé, j'ai dit aussi, c'est une bonne signe, parce que si on commence à réfléchir, c'est déjà un pas en avant pour la guérison. Et je pense, l'Europe a une tradition aussi solide et si fondamentale.
La preuve vivante aujourd'hui, Madame la Ministre, et nous vous en remercions. Mais outre la Fondation, comment se manifeste la présence culturelle taïwanaise en France aujourd'hui, et je dirais plus largement en Europe?
Oui, par exemple, la culture taïwanaise est très moderne. Je crois que les Français peut-être ne connaissaient pas beaucoup, mais nous avons déjà présenté presque plusieurs présentations modernes de l'art de Taïwan. Par exemple, Cloud Gate, qui a joué dans le festival d'Avignon, qui a beaucoup de succès. Nous avons de Han Tang Yue Fu aussi. Nous avons de groupes de modernes de danse ou go. Nous avons de U Theater, qui ont beaucoup joué en France. Donc, les Français aiment beaucoup. Et ensuite, nous avons participé aussi au festival de Lyon aussi. Et peut-être l'année prochaine, nous allons participer à le festival d'Aix-en-Provence. Mm-hmm. Ça veut dire beaucoup des échanges et nos artistes ont beaucoup joué à Palais Chaillot aussi. Et nous accueillons aussi des artistes français à Taïwan. Et nous faisons même créer une opéra qui est écrite par Gao Xingjian. C'est le prix de Nobel de littérature. Et c'est coopérer l'opéra occidental et l'opéra chinois. C'est une création tout à fait spéciale. Et la musique est écrite par un musicien qui vit à Paris, un Chinois. Mais tous les acteurs, tous les musiciens de l'orchestre, ça veut dire sur la scène, nous sommes 200 personnes, 200 artistes sur la scène. En même temps, ils jouent une œuvre créée tout à fait moderne et qui sera jouée à l'Opéra de Marseille à la fin d'année.
Voilà donc pour le témoignage de Madame Chen Yuchu, qui n'est plus aujourd'hui ministre de la Culture de Taïwan, mais conseillée auprès du président de la République pour les affaires culturelles et les relations culturelles internationales. Alors, nous aurons bien sûr à ce titre l'occasion...
...avec tous les pays du monde. Hein. Cette jeune génération qui n'a pas connu cette époque, qui a toujours connu une île un peu marginale, n'a pas la même vision. Et je suis étonnée de voir que dans cette jeune génération, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Europe et qui s'intéressent à l'Europe et qui regardent les choses de façon très réaliste en considérant... ils sont un peu écœurés par l'énormité de l'influence américaine qui a vraiment tout envahi et qui a envahi beaucoup de choses à Taïwan. Et ils cherchent autre chose. La Chine du continent les attire, bien sûr, parce que c'est la civilisation chinoise du passé qu'ils retrouvent. Mais la vie actuelle sur le continent, pour eux, elle a un attrait quand même limité parce que les conditions matérielles sont plus dures que chez eux. Et ce qu'il y a de vie commerciale, de vie moderne, ils l'ont chez eux. Donc, ça n'est pas un attrait nouveau par rapport à eux. Ils sont donc un peu lassés du côté de la culture américaine et cherchent autre chose. Et l'Europe leur paraît quelque chose de différent. D'autre part, l'Union européenne et le fait que l'Europe maintenant a quand même une monnaie commune et que ces pays maintenant sont à 25 ensemble, leur paraît représenter une sorte de force dans le monde. Et donc, on a une jeune génération qui vient vers l'Europe, attirée par la diversité européenne, par le fait que quand même c'est un ensemble relativement constitué, beaucoup moins disparate qu'autrefois. Et il y a des relations nouvelles qui se nouent et des gens, qui, parmi les artistes par exemple, qui sont intéressés par la création en Europe. Pas forcément la création en France, ça peut être la création en Allemagne, en Italie, etc. Mais il y a de nouveau un mouvement de retour vers l'Europe.
Donc vous êtes nettement moins pessimiste que Madame Chen.
Non, mais si Madame Chen était dans sa fonction d'abord. Quand elle est venue, qu'elle a fait son exposé, elle était ministre du gouvernement de Chen Shui-bian, et il était normal qu'elle prenne cette attitude. D'autant plus que très peu de temps avant son voyage, Monsieur Chirac avait quand même tenu des propos sur la tenue du référendum à Taïwan, qui était pour un membre du gouvernement de Taïwan quelque chose
un affront.
De peu un affront direct, oui. Elle a été très modérée, très modeste dans ses propos, mais enfin, la position qu'elle a prise était quand même normale de manifester une déception.
C'est-à-dire que M. Chirac s'était prononcé contre le référendum visant
M.
à
Chirac
l'indépendance.
M. Chirac a dit, dans ses conversations avec les autorités le chef du gouvernement de Pékin, que la tenue d'un référendum à Taïwan pour savoir si Taïwan devait ou non continuer à augmenter sa défense contre le continent, était illégitime. C'était une intrusion tout à fait étrange dans les affaires intérieures d'un autre pays. Et en plus, de la part d'un président français, refuser le droit de référendum, qui est quand même une manifestation imminente de la démocratie, un pays qui est un pays démocratique, dans lequel le président de la République est élu au suffrage universel et le Parlement aussi, c'était gros.
Donc, aujourd'hui, dans l'esprit de Taïwan, des Taïwanais, l'Europe renaît, si je vous comprends bien. Il y a eu une Europe...
Je pense que, probablement...
Perdante face aux États-Unis.
Dans l'élite politique de Taïwan, ils sont très attentifs à ce qui se passe en Europe, parce qu'ils ont une vision géopolitique et ils savent très bien que... Il faut compter avec tout ce qui existe dans le monde et qui compte dans le monde. Mais dans la jeune génération, si vous voulez, des gens qui ne font pas de calcul politique, il y a un intérêt pour l'Europe et il y a beaucoup d'étudiants taïwanais qui viennent faire des études en Europe. Il y en a bien sûr un très très grand nombre qui vont toujours aux États-Unis, mais enfin, il y en a beaucoup qui viennent en Europe.
Mais la tradition est encore très présente à Taïwan, puisque l'île aujourd'hui, ce sont environ 22 millions d'habitants. La population est composée de plusieurs strates qui correspondent à des phases successives de peuplement. Et l'on y trouve encore plusieurs centaines de milliers de descendants des premiers habitants de l'île. Donc il y a encore cette tradition qui est forte.
Mais c'est-à-dire que la population de l'île a trois grandes composantes. Il y avait ce qu'on appelle les aborigènes, c'est-à-dire en réalité des populations... austronésiennes, dont on ne peut pas dire que c'est les populations d'origine, parce que probablement elles sont venues de la mer, mais à une époque très 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 reculée. En tout cas, ce sont ces populations austronésiennes, ce ne sont pas des populations chinoises, pas des populations Han, qui occupaient l'île quand les colons chinois sont venus des côtes du sud de la Chine au XVIIe siècle seulement. Il y a eu une première vague d'émigration chinoise du sud de la Chine dans l'île de Taïwan au XVIIe siècle. Puis ça a continué au cours du XVIIIe siècle. C'est toujours des gens du sud qui sont venus. Après cela, la grande autre vague d'immigration, ce sont des gens du continent qui sont venus avec Chiang Kai-shek au moment de la dissolution, enfin de la déroute de Chiang Kai-shek en 1948-49. Il y en avait déjà qui étaient venus depuis 1945, c'était l'administration qui avait été envoyée par le gouvernement de Chiang Kai-shek pour prendre possession de l'île. Mais enfin, la vague d'émigrés du continent est venue donc en 1948-49.
C'est-à-dire le moment où c'est devenu le bastion de l'anticommunisme.
C'est ça. Et alors là, ce sont des gens qui sont venus de toutes les provinces de Chine, parce que l'administration de Chiang Kai-shek comportait du personnel venu de toutes les provinces, mais en particulier des gens qui venaient des provinces centrales. Il y a eu beaucoup de gens de la province du Jiangsu, puisque la capitale de Chiang Kai-shek était établie à Nankin, dans la province du Jiangsu. Des gens de Shanghai, et puis des gens du nord de la Chine aussi. Et une partie de l'armée de Chiang Kai-shek, qui était composé d'officiers, mais aussi des soldats tout à fait ordinaires, a été aussi transporté à Taïwan. Donc, à ce moment-là, il y a eu à peu près 1 million, 2 millions de gens qui sont venus. Et ensuite, ces gens ont formé les cadres de l'administration de Chiang Kai-shek à Taïwan. Et cela a contribué à durcir l'opposition entre Taïwanais, mais ces Taïwanais, c'était des gens du sud de la Chine acclimatés à Taïwan, des Han, des Chinois, les gens, les tribus des montagnes, les tribus aborigènes plutôt, Au fur et à mesure de l'avenue des colons chinois au XVIIe et au XVIIIe siècle, elles avaient été massacrées en grande partie et repoussées dans les montagnes. Elles vivaient dans les montagnes et elles n'ont pas participé, si vous voulez, à la vie politique et à l'opposition à Chiang Kai-shek à partir de 1949. Non, ils étaient dans leurs montagnes un peu oubliés. Donc l'antagonisme, il a été entre des Chinois de première émigration, venus au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient des gens du Sud, qui parlaient aussi une langue du Sud, et puis les émigrés du régime déchu, qui étaient plutôt des gens du Nord et qui parlaient une langue différente, qui parlaient en général d'ailleurs ce qu'on appelle le mandarin, c'est-à-dire la langue commune de la Chine, et qui sont arrivés plus tard, qui ont pris les postes de gouvernement, ce que la population de Chinois locale, la population locale des Chinois a très mal ressenti. Mmh. Et puis, il y a eu des incidents très graves, mais les incidents très graves sont passés en 1948, où il y a eu une révolte des Chinois locaux contre les autorités envoyées par Chiang Kai-shek, et révolte qui a été écrasée dans le sang, et...
bancaire et financière. On peut dire aujourd'hui, Madame Bastide-Bruyère, que Taïwan a réussi vraiment sur le plan économique?
Oui, mais c'est toujours, enfin, comme toutes les réussites économiques, c'est toujours fragile parce que c'est dépendant de la circulation à l'extérieur. Or, le statut international de l'île, qui n'est plus reconnu maintenant que par 6 ou 7 pays, qui n'a pas de siège dans les organisations internationales, rend les choses compliquées quand même. C'est toujours vulnérable et fragile. Ce sont des Chinois, ils sont de très bons commerçants.
Oui,
une culture commerciale très forte.
Bien sûr.
Et d'autre part, ils ont aussi... Et ils ont eu la formation japonaise et sur beaucoup de points, et en particulier l'alliance entre la technologie et l'industrie, et ils ont pris les habitudes japonaises, plus que les habitudes du Chinois du continent, qui sont beaucoup moins forts qu'eux là-dessus.
Le modèle économique taïwanais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mélange de libéralisme et d'interventionnisme étatique. On peut le présenter de cette manière?
Le rôle de direction de l'État est assez fort. Enfin, l'État aide beaucoup. Enfin, l'État est très présent. En même temps, la prospérité dépend très largement de petites et moyennes entreprises, qui sont elles des entreprises taïwanaises, c'est-à-dire de ces taïwanais de souche. Et qui n'ont jamais été chercher tellement l'aide de l'État. Ils se débrouillent tous. Leur attitude, c'est plutôt de se débrouiller tout seul, et le moins l'État intervient, mieux ça vaut. Mais malgré tout, de temps en temps, ils ont besoin de l'État. Parce que quand ils ont des difficultés sur leur continent, il faut quand même que leurs autorités politiques les protègent. Et c'est là où ils sont vulnérables, parce que les autorités politiques n'ont pas de statut. C'est toujours la même chose, ils n'ont pas de statut international.
Est-ce qu'ils peuvent aller trouver, je dirais en investissant en capitaux dans les pays voisins, aller trouver une force ailleurs, les voisins asiatiques, notamment la Chine continentale?
Bien, le souci du gouvernement taïwanais, c'est que les entreprises de Taïwan n'investissent pas que sur le continent. C'est qu'il y ait une diversification, et il a poussé les petites et moyennes entreprises à investir dans tout le sud-est asiatique. D'ailleurs, cette politique, ce n'est pas une politique récente. Depuis déjà 30 ans, les entreprises de Taïwan ont investi en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. Et actuellement, beaucoup d'entreprises de Taïwan sont actives au Vietnam. Elles sont actives à la fois en Chine continentale, au Vietnam. Bon, pendant assez longtemps, elles étaient actives aussi en Corée. Et puis, quand la Corée du Sud a décidé de rompre ses relations avec Taïwan, le mouvement vers la Corée était moins fort. Mais enfin, il y a quand même encore pas mal d'intérêts taïwanais au Vietnam.
Oui. Alors, Taïwan aujourd'hui...
En Corée, je veux dire.
En Corée. Taïwan aujourd'hui, quid des débouchés pour les pays européens? Nous parlions tout à l'heure des passerelles évidentes.
Oui.
Où sont ces débouchés possibles? Bon, évidemment, nous parlions des nouvelles technologies.
Il y a pas mal de commerce avec l'Europe aussi. Mmh. Et il y a des entreprises européennes assez nombreuses qui ont investi à Taïwan. Ça, c'est un mouvement qui s'est fait depuis aussi une vingtaine d'années. Le métro de Taïwan, le métro de Taipei a été quand même construit en partie, et pas toujours très facilement, par Matra.
C'est un beau fleuron européen.
Oui, enfin, ça n'a pas été absolument parfait. Mais enfin, malgré tout, maintenant, le métro marche.
Que s'est-il passé? Racontez-nous un petit peu.
Et dans la conclusion des contrats, il y a eu des difficultés, parce qu'il fallait qu'il y ait des entrepreneurs locaux pour les travaux d'infrastructure. Et il y a eu là soit des contrats qui n'ont pas été très, très réguliers ou des... ça a été un peu compliqué. Le métro n'a pas fonctionné très bien à certains moments. Il y a eu quelques ennuis, des dépassements de devis. Actuellement, c'est à peu près éclusé.
Alors, est-ce qu'il y a quand même certains pays qui peuvent tirer plus profit que d'autres en Europe de Taïwan? Je pense notamment peut-être aux relations étroites qu'entretiennent la Chine et l'Allemagne, Pékin et Berlin qui viennent de se fixer pour objectif de doubler leurs échanges commerciaux d'ici à 2010 pour atteindre 90 milliards d'euros. La Chine est déjà le principal partenaire commercial de l'Allemagne en Asie.
Les Allemands sont très actifs aussi à Taïwan. Parmi les pays européens qui sont très actifs à Taïwan, il y a les Hollandais. Mais les Hollandais ont une très ancienne tradition de relations avec Taïwan, parce que les commerçants hollandais s'étaient installés à Taïwan au début du XVIIe siècle, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la Chine, parce que les Portugais les empêchaient d'y aller. Donc ils s'étaient mis à Taïwan. Et les Hollandais ont un commerce important avec Taïwan. Les Scandinaves aussi.
Madame Chan Yu-Chu, que nous avons écouté tout à l'heure, parlait de la vision de l'Europe depuis l'Asie. Nous en parlions également. Alors si on refait un petit peu de nouveau de l'histoire, on peut dire que contrairement aux Chinois, dès leur arrivée, les Européens se sont intéressés à l'île de Taïwan. Bon, les Portugais y ont installé des comptoirs avant de baptiser l'île donc Formose, de Formosa la Belle. Et puis les Espagnols ont ensuite été chassés par les Hollandais, vous le disiez. Alors finalement, c'est un pays très cosmopolite.
Oui, parce que c'est une étape obligée sur les routes maritimes. Et au XIXe siècle, beaucoup de puissances, au moment de la marine à vapeur, considéraient que c'était un endroit où on pouvait avoir des dépôts de charbon. C'était un bon point d'ancrage pour les dépôts de charbon. En plus, dans le nord de l'île, il y avait des mines de charbon. Donc Taïwan était, pour la navigation, une étape très importante. C'est vrai, c'est probablement un des points de la Chine où les échanges avec l'extérieur ont été... une création artistique à Taïwan, alors une création contemporaine qui est extraordinairement vivante et qui se manifeste dans la musique, dans les arts dramatiques, en littérature, en peinture, en sculpture, en architecture. C'est extraordinaire. Là, Gao Xingyan a pu faire créer son opéra. C'est donc la conjonction de la grande culture chinoise, parce que c'est un artiste qui est en réalité né sur le continent et qui est maintenant mis en scène par ses compatriotes de Taïwan.
Alors 2004, année de la Chine, en France évidemment, et ce sera l'occasion d'une représentation de cet opéra à Marseille. Nous aurons l'occasion également d'y revenir. Peut-être
une
dernière question.
Oui, mais je ne suis pas sûr que Pékin soit très content, parce que les autorités de Pékin, pas les Chinois du continent, mais les autorités de Pékin veulent faire le silence sur Gao Xingyan, puisqu'il a quitté la Chine.
Mais il s'exprimera quand même à Marseille dans le cadre de cette année.
Oui.
Une question peut-être un petit peu plus personnelle pour terminer, Marianne Bastide-Bruyère. Qu'est-ce qui vous fascine encore aujourd'hui en Asie, donc en Chine et particulièrement à Taïwan? Est-ce qu'il y a un fait particulier qui retient votre attention.
C'est la capacité de création et la capacité de...
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.